Riviera Ferraille.
Première fois. Tu t'en rappelles, toi, Rico, de ta première fois ?
Ouais, c'est là que j'ai compris que c'était quand même meilleur à plusieurs. Quand on est là, dans l'échange et dans le partage, là, c'est là que c'est le meilleur.
Ouais, m'en parle pas. Et toi, Régis ?
Bah, pareil, parce que moi, ils étaient 6 et ils avaient des costumes moulants en lycra, tout colorés. Mais c'était vachement bien et c'était super sympa.
Et toi, Mathilde ?
Ouais, par décision judiciaire, je ne suis pas autorisée à évoquer ces événements.
Je comprends. Moi, ma première fois, c'était en Normandie, avec un cheval du diable. C'était une belle nuit, mais c'était quand même une nuit difficile. Enfin, bon, bref, bon.
On s'en remet jamais vraiment totalement de ça.
Comme dit Rico, on se remet jamais totalement de sa première fois dans le nanar. Et c'est un peu de ça dont on va vous parler aujourd'hui.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la cave.
Riviera Ferraille présente Nanarland, le podcast des mauvais films sympathiques. The podcast about likable bad movies.
De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja?
Подкаст о второсортных малобюджетных кинокартинах, которые, несмотря на все свои недостатки, depuis les studios Nanarland, Paris et Grenoble. From Nanarland Studios in Paris and Grenoble. Сделано в студии Nanarland в Париже и Гренобле.
Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Bonjour et bienvenue dans Nanarland le podcast des mauvais films sympathiques. Un podcast où on se régale à vous parler de films tellement ratés qu'ils en sont passionnants et hilarants. À chaque épisode, on prend un thème, on l'illustre avec trois nanars de première catégorie. Aujourd'hui, c'est l'épisode de l'initiation. Pour le thème, d'une part, que je vais vous expliquer dans un instant, et aussi pour la team, car on accueille Mathilde derrière le micro pour la première fois. Salut Mathilde, comment ça va ?
Ça va très bien, bonjour les Riviroses, bonjour les nanardeurs.
Bon, ben on est bien content de t'accueillir. Et Mathilde et moi, nous ne sommes pas seuls. Ils sont là, ils sont deux. Au Vietnam, ils étaient les meilleurs, ils le sont toujours. Ça fait un moment qu'ils sont dans le game. Salut Rico, salut Régis, comment ça va ?
Eh ben, salut les nanardeurs débutants, eh ben, ça va pas mal.
Salut, bah ouais, pareil, ça va très bien.
Bon, cool. Alors, depuis qu'on a démarré le podcast, on nous a dit plusieurs fois, c'est cool de vous entendre parler de films de dingue, de films dont on n'a jamais entendu parler, mais comment on fait pour se les procurer, d'une part, et d'autre part, est-ce que je peux regarder ce film dont vous me parlez si j'ai jamais vu de nanar ? Parce que c'est vrai que, pour démarrer, il y a certains... Les auditeurs se posent légitimement la question, est-ce qu'un film de 3 heures sur un dieu indien, est-ce que ça va être facile à rentrer dedans tout de suite ? Alors, pour vous aider, on a choisi de vous parler aujourd'hui de trois films, trois nanars, faciles à se procurer et faciles à regarder, seuls ou entre amis. Alors, comme expliqué en intro, on vous le recommande plutôt en amis, mais je pense que ceux-là, vous pourrez aussi passer un bon moment, tranquillou, un petit live tweet, une petite bière, peinard, un bon moyen de tuer l'angoisse du dimanche soir.
Après, c'est vrai que ça touche quand même à l'essence du nanar, de regarder le truc entre potes. Enfin, je pense que dans toutes les configs, c'est quand même... comme ça qu'on peut conseiller de regarder ces films-là aussi, non ?
Enfin, je sais pas le nanar est festif. Il faut vraiment, vraiment être dans cet esprit. C'est un esprit de partage, c'est un esprit d'amour.
Ouais. Mais c'est, vrai que... Le nanar est altermondialiste.
Usul regarde des nanars.
Mais bon, c'est vrai que grâce au... Il faut dire que nous qui sommes dans le game du nanar depuis longtemps, avec les réseaux sociaux, ça a apporté un petit truc en plus, quoi. On a trois films surprises. Je suis seul à connaître les trois, alors je ménage le suspense. C'est Rico qui va ouvrir le bal avec le premier film du podcast. Alors vas-y, dis-nous tout. Quel film as-tu choisi ?
Alors quand tu nous as demandé un petit peu des nanars faciles d'accès, j'ai cherché un nanar que j'avais vu justement assez jeune et qui m'avait un petit peu été une porte d'entrée pour le nanar. Et puis en même temps, un film qui va être assez facile à trouver parce que c'est plutôt une grosse production. On le retrouve en Blu-ray, on le retrouve en DVD, il passe assez régulièrement sur les chaînes câblées. Et c'est surtout aussi un nanar extrêmement généreux qui a peu de temps mort et qui est justement très facile d'accès, très, très ouvert pour le grand public.
C'est les Tuches 3.
presque, presque, s'il s'agit de Blade Runner 2049. il s'agit d'un film de 1980. Il s'agit de Flash. Savior of the Universe, Gordon. Qui donc est vraiment l'archétype du blockbuster Portnawak qui... veut en faire des caisses et qui finit par rater à peu près toutes ses cibles, mais avec une telle générosité qu'on ne peut avoir que de la tendresse pour ce film.
Ouais, et alors, de quoi parle ce merveilleux film ?
Alors, c'est l'adaptation d'une bande dessinée d'un comics des années 30. Ce sont les aventures donc, de Flash Gordon, qui est un joueur de foot américain, musclé à souhait, au brushing indestructible, et qui va s'embarquer dans une fusée avec sa copine Del Arden et le professeur Zarkov pour être capturé par Ming le Cruel, un dictateur interstellaire qui s'est mis en tête de détruire la Terre par des désastres naturels, en décrochant la Lune, en provoquant moult catastrophes. Parce qu'en gros, si on lui demande pourquoi est-ce qu'il attaque la Terre, et ben c'est parce qu'il le peut.
Et c'est... ce qui est la meilleure raison quand même pour attaquer la Terre.
C'est une bonne raison, ouais.
Ouais, je cautionne à 2000%. Ouais.
Bah, effectivement, je comprends. Quand on est dictateur interstellaire, on vérifie régulièrement, tous les 1000 ans, il teste personnellement toutes les planètes pour voir si elles sont une menace potentielle. Et la Terre, justement, est devenue une menace potentielle. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'évidemment, il va se retrouver face à Flash Gordon, Guy l'éclair en français. Enfin non, là, ils utilisent quand même, ils ont gardé quand même le terme américain de Flash Gordon. Et qui va sauver notre planète, en tout cas de la destruction, mais pas du ridicule. Alors, déjà, c'est une méga production. Hein. C'est 35 millions de dollars de budget. C'est censé concurrencer Star Wars.
C'est énorme à l'époque, 35 millions.
Ah, c'est énorme, c'est plus que Star Wars. Et en fait, s'il n'y avait pas eu le film Flash Gordon, il n'y aurait pas eu Star Wars. Pour une raison simple, c'est que George Lucas voulait faire Flash Gordon, mais il n'avait pas les droits. Parce que les droits avaient été récupérés par un producteur italien un peu génial et un peu fou qui est Dino De Laurentiis, type qui avait fait le remake de King Kong, qui fera plus tard le film Dune, qui fera Conan le Barbare, Le Silence des Agneaux, et qui est un peu un de ces producteurs à l'ancienne, complètement dans ses projets de démesure, dans ses projets pharaoniques. Et il avait le projet depuis longtemps, il avait fait Barbarella dans les années 70, il avait l'envie de faire une grande fresque sur une bande dessinée qu'il lisait quand il était gamin. Et donc il a fait un film qui l'émerveillait quand il avait 5 ans, et ça se voit à l'écran.
Et qu'est-ce qui s'est mal passé en partant d'une belle production comme ça et d'un matériau culte pour que ça finisse aussi mal ?
Eh bien en fait, c'est qu'en gros, ils ont pris un matériau qui était culte dans les années 30... Et ils l'ont, dans les années 80, retraduit presque fidèlement, presque sans second degré. Il y a quand même un petit second degré derrière, mais ils l'ont quand même fait vraiment au premier degré. Ça fait un peu penser à Star Crash, par exemple. C'est-à-dire que tout est kitsch, tout est carton-pâte. Et on est dans la volonté d'en mettre plein la vue, avec des effets assez grotesques. Ce qui passait très bien dans les années 30, avec des maquillages outranciers, avec des gentils très gentils, des méchants grimaçants et très méchants, ça passe plus vraiment. Le premier extrait va nous présenter un petit peu les personnages qui se présentent à Ming le Cruel et l'imprimeur interstellaire, et on va préciser un petit peu qui ils sont après.
Qui êtes-vous ?
Flash Gordon, demi d'ouverture des New York Jets.
Je m'appelle Hans Zarkov, je fais de la recherche. Je les avais kidnappés dans un ultime effort pour sauver la planète Terre.
Un corps obscur dans le système SK, vous savez, le petit satellite avec lequel vous vous êtes amusé récemment.
Mais pourquoi ?
Je vous assure que l'amitié est notre seul but. Qui vous a poussé à nous attaquer?
Et le plaisir, alors? Pauvre créature terrienne, se lançant à corps perdu dans le vide, sans savoir ni de qui ni de quoi est fait l'univers.
Je suis Max von Sydow et je surjoue toutes mes scènes en prenant un immense plaisir dans un costume de 35 kilos. Alors, le film est aussi plaisant en VO qu'en VF, hein, parce qu'en VO, ça cabotine déjà pas mal. Et puis en VF, on en rajoute encore des couches. Et on sent quand même que les acteurs, il y a pas mal d'acteurs de qualité. On va revenir un petit peu dessus. Mais notamment, Max von Sydow qui interprète l'empereur Ming de la planète Mango.
De Bergman à Flash
Gordon. Et vraiment... tout à fait. Ouais. Et puis après, il reviendra dans Star Wars, dans la nouvelle trilogie. Mais bon, alors ce qui fait le sel de ce film, c'est que c'est un film qui est hyper généreux en costumes complètement invraisemblables. On a des hommes oiseaux avec des ailes en balsa, des nains dans des costumes et des maquillages outranciers qui sont tenus à la laisse, des hommes serpents où en fait ils ont des cagoules avec des petites dents de serpent qui leur passent devant le visage et ils sont maquillés en vert. On est dans une ambiance, en fait, la cantina de Star Wars, mais qui serait étalée sur 1h30 de film. Et le tout avec plein de sous-entendus sexuels quasi permanents. Tous les vaisseaux ont quand même des formes phalliques extrêmement poussées. On ne compte plus les personnages en cuir, tenus par des laisses. Alors, c'est festival cuir, lamé, paillettes. En plus, on a dedans pas mal de bons acteurs. Donc, on a Max von Sydow qui interprète Ming. On a Timothy Dalton, qui sera plus tard James Bond, et qui interprète un prince très Errol Flynn, très bondissant en collant vert. On a Ornella Muti, qui est la fille de l'empereur Ming, et qui est à fond aussi dans son rôle à la fois de séductrice et en même temps de princesse, qu'on va le voir d'ailleurs dans le deuxième extrait où, scène terrible, elle a trahi son père et donc elle est soumise à la torture et au fouet par le petit personnel de Ming.
Arrêtez le chirurgien impérial pour haute trahison.
Vous êtes fou !
Préparez-le à la torture.
Avouez ! Et vous n'aurez plus à subir le fouet. Nous détestons avoir à vous fouetter. Jamais !
Apportez les vers perforants.
Non ! Pas les vers perforants !
Ça se fait pas, super mal un verre perforant.
C'est ce que tes élèves te disent aussi, non, à chaque fois. Pas les verres perforants encore.
Ah bah ça, ils ont pas la moyenne. Hein.
Sortez un quart de feuille, laissez les trousses, sinon c'est perforant.
Et par contre, les effets spéciaux en transparence ont super mal vieilli. On a vraiment quelque chose, les incrustations qui sont baveuses, la volonté de concurrencer un peu Star Wars ou Superman là-dessus, mais quand on pense donc aux effets spéciaux de la même époque, on est sur un rendu absolument atroce qui est plus proche de Star Crash quand même, avec 35 millions de dollars, que de Star Wars qui lui, je ne sais plus, mais il était je crois à moins de 10 millions de dollars 3 ans avant quoi. Et donc, y a des tombées de mannequins en mousse, en transparence, quand il y a des attaques d'hommes oiseaux, quand il y a Flash Gordon sur son scooter de l'espace qui part à l'assaut de la forteresse de Ming. C'est absolument outrancier, mais c'est super agréable parce qu'il n'y a pas trop de temps mort. Il y a cette naïveté très premier degré du héros indestructible. Son brushing ne bouge jamais. Évidemment, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils. Et quand il y a un souci, Flash Gordon arrive à la rescousse, comme on va le voir dans le troisième extrait, qui donne vraiment l'ambiance, de façon très courte, mais l'ambiance générale du film.
Princesse, un garde va vous conduire en salle d'attente. Voici l'heure du bonheur. Suivez-nous. Nous allons vous préparer pour vos noces.
Oh, je suis perdue. Rien ne me sauvera plus.
Vache !
Alors, on l'entend, il y a aussi la musique. Et là, la musique de ce film, il est magique.
Il va falloir faire un point musique.
Eh oui. Elle est magique parce qu'elle est signée rien que moins que par Queen.
c'est toute la bande son est faite par Queen. Et on est avec vraiment des musiques typiques de Queen du début des années 80, avec double nappe de synthé, avec petits effets wing-wing dans tous les sens, avec un sens de l'héroïsme. Et bon, bah, la chanson phare, Flash, c'est vraiment... on est dans le rêve, là. On est absolument dans le rêve.
C'est un film blindé de piou-piou, non ?
Ah, il y a du piou-piou partout. Il y a
des piou-piou non-stop, non ?
Il y a du piou-piou, il y a du théramine, il y a du... Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Il n'y a pas trop de temps mort.
Ouais, c'est vrai que c'est super dense. Hein.
C'est pour ça que
ça n'arrête pas, quoi.
C'est un bon film pour commencer un petit peu dans le nanar.
Mais par contre, est-ce que c'est pas ce positionnement, justement, un peu entre le second et le premier degré qui fait que le film a quand même malgré tout des ardents défenseurs? Il y a quand même des gens qui disent non.
Il est culte aux US, je crois. Hein,
bah, il est culte aux US, enfin, je sais pas, tu vas peut-être en parler.
Alors,
mais
oui, justement.
Il est cité dans plein de.
Ouais. Alors, j'ai fait un petit peu quelques recherches. En fait, le film a pas très bien marché aux États-Unis, mais pas mal en Europe. Il a fait plus d'un million d'entrées en France. Les critiques de l'époque, même Roger Ebert et tout, l'ont pris pour ce qu'il était. C'est un film assez kitschouille pour enfants des années, qui remémore pour les gens de cette époque vraiment l'âge d'or des années 30, où avec des héros en noir et blanc, des méchants, des gentils, aucune subtilité, mais c'est ce qu'on veut. On veut du spectacle franc et massif. On n'est pas dans le nouvel Hollywood, on n'est pas dans du Scorsese, on n'est pas dans du Cimino.
Ah
là.
Non,
c'est...
Je confirme,
c'est, franchement, c'est ce qu'ils auraient dû mettre derrière la jaquette. On n'est pas dans le nouvel Hollywood. Je pense que c'est...
On n'est pas chez Coppola, là.
Et il y avait vraiment des ambitions, parce que De Laurentiis a essayé de convaincre Fellini de tourner le film, en fait. Il n'a pas réussi, curieusement. Donc il s'est rabattu sur Mike Hodge, qui a fait le boulot. Et ouais, le film, il faudrait encore parler de Sam Jones, l'acteur principal.
Gros sujet.
Ouais, qui a fait une belle carrière après dans le nanar. On ne pourra pas parler de tout. Alors ouais, le film est devenu un petit peu culte.
Mais par contre, c'est vrai, je conçois qu'à l'époque, des gens qui ont vu ça gamin aient pu rêver en fait avec ce film quand même. Parce que il est hyper généreux, quoi. Enfin, il est presque pop, en fait, je trouve, dans les couleurs, dans le... Puis il y a un rythme. Enfin, je me dis, tu vois ça... Au bon âge, tu rêves un peu quand même.
Ouais, mais au bon âge, à cette époque-là, pour voir le film, c'est 50 ans.
Ou 5 ans.
Ouais, 5 ans ou 50 ans. Parce que le problème, c'est
5
que...
ou 50, quoi.
Ouais, les jeunes de 20 ans, ils voyaient Star Wars.
Ouais.
Puis après, quand t'as Flash Gordon, qui a tout un imaginaire qui date des années 30 et qui est resté englué un peu dans les années 30, forcément, ça pique un peu les yeux. Et donc, ce qui fait qu'après, quand on l'a redécouvert, quand les gens des années 80 l'ont redécouvert, ils l'ont redécouvert avec une infinie tendresse. Ce qui explique, par exemple, que dans le film Ted,
il y a Sam Jones qui est de retour autour du film.
Ouais. Ouais.
Et qui a même un rôle central autour de ça.
Et Sam Jones qui va faire que ça comme gros film. Ça devait être le film qui devait le lancer. Et curieusement, il n'y a pas eu de suite.
Il n'est pas retombé bien.
Oui, il n'est pas retombé bien loin.
Ça l'a lancé, mais pas au bon endroit, quoi.
Après, il va faire du téléfilm aux Philippines. Il va faire du petit film d'action pour Vidéo Club. Il va toujours bien vivoter, en fait.
Alors, est-ce que c'est pas lui, à un moment, qu'on avait vu dans un extrait de film où il tuait quelqu'un en faisant un lance-pierre avec un préservatif et avec lequel il tirait une balle de pistolet et il tuait quelqu'un d'un headshot?
Oui.
D'accord.
Oui, c'est lui.
Ouais,
oui.
C'est lui.
Ça donne un people.
Non, c'était juste pour expliquer jusqu'à où il avait été.
Du coup, j'ai envie de dire, ça valait le coup quand même, quoi, pour arriver à faire ça un jour.
Je pense que.
Grâce à George Lucas, en fait, finalement.
Je pense qu'il faudra un jour pour passer sur
par ricochet.
L'effet papillon. Ah.
C'est un des bienfaits de Star Wars dont on parle pas assez, en fait.
Alors, il faudra faire sûrement un jour une bio de Sam Jones, parce qu'il a eu une. Avant et après le film, il a eu quand même pas mal d'aventures. Et notamment, il est pas mal cité par Kenneth Anger dans Hollywood Babylon pour avoir posé dans des revues homosexuelles. Il serait doté, on va dire, d'un appareil qui ne laisse pas indifférent le public. Et alors, pour avoir vu les photos sur le bouquin de... Alors déjà, on a du mal à reconnaître si c'est bien lui ou pas, parce que lui a toujours nié. Effectivement, sur les images, il y a un type un peu... qui lui ressemble vaguement, mais avec 20 ans de moins, enfin avec 10 ans de moins, mais effectivement qui est monté comme un âne, hein, soyons honnêtes.
Je
crois que c'était vraiment un
temps de temps sur le chibre de
Nanarland. Enquête, on va au fond des choses.
Nanarland est sur le coup. Non, je pensais que c'était vraiment quelque chose.
On est passé du nanar early beginner au zgeg d'un acteur que pas grand monde ne connaît. En fait, je suis un peu choqué.
Bon,
en 15 minutes. Mais non, mais c'est aussi la beauté
c'est important. Le truc, c'est qu'en voilà, en enquêtant sur ce film, je suis tombé sur des choses et voilà, je pense qu'il
on va t'aider, Rico. On va t'aider.
Voilà. Maintenant, je pars en thérapie, mais.
Donc voilà, merci Rico.
Voilà,
merci
pour bien commencer. Ouais. Une grosse prouesse.
Je crois que c'est la meilleure fin, la meilleure conclusion de chronique.
Voilà. On avait dit qu'on avait tous les publics. Donc
bon bah merci pour cet argument massu. J'ai envie de dire.
C'est le cas de le dire.
Bon. Voilà. Mathilde, tu as la charge.
Désolé, Mathilde, d'être laissée sur ce champ de ruines.
Alors, j'ai pas après poussé la trivia. Recherche jusqu'à mesurer.
Est-ce que tu as des anecdotes sur la taille des membres du film dont tu as parlé?
Non.
Ça tombe bien.
Malheureusement, non.
Allez, on t'écoute. Quel est le film que tu as choisi?
Alors, écoutez, moi, j'ai fait comme à peu près comme Rico. J'ai pris l'un de mes premiers nanars, peut-être mon premier nanar, puisque le seul autre dont je me souviens, j'en ai jamais retrouvé le titre, c'est Donjons et Dragons de Courtney Salomon, sorti en 2000, donc j'avais 12 ans, j'étais toute pépette à l'époque. Et à cette époque-là, les vidéoclubs existaient encore, et un vidéoclub à Mont-Saint-Aignan avait mis sur une étagère Donjons et Dragons.
Et là, tu t'es dit, waouh, ça a l'air trop bien.
Alors, j'avais peut-être pas 12 ans, mais disons 13 un quart, parce qu'il fallait le temps évidemment qu'ils sortent à l'époque. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, on n'avait pas les films tout de suite sur les réseaux pirates, ni sur Netflix.
La chronologie des médias était impitoyable.
Et en fait, ça a été vraiment une sortie de l'enfance, en fait, parce que c'est à moitié un film...
Tu veux dire que c'était la fin de l'innocence?
Voilà, à moitié le film d'enfant, et puis à un moment, il y a un petit déclic qui fait... Mais qu'est-ce que je regarde? Et là, voilà, c'est le sens critique qui arrive. La fin de l'enfance, de l'émerveillement, de la jeunesse.
Est-ce que tu l'avais pris parce que tu étais fan du jeu ou...
Du tout. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais finalement, Donjons et Dragons, le film, est l'adaptation de Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Et alors, n'ayant pas trop de connaissances du lore Donjons et Dragons, je ne saurais vous dire. Il me semble qu'il y a deux ou trois bestioles qui, effectivement, sont représentés dans le film et qui sont des incontournables du jeu, mais il me semble pas tant que ça.
En tant que rôliste pur et dur. Alors,
soit on prend 50 minutes pour laisser la parole à Rico et il nous fait un point dessus.
Soit on lui coupe le micro.
Mais après, je ferai un point rôliste en pleurs. parce que ça a été quand même, pour la communauté rôliste, ça a été quand même plus qu'une trahison. Ça a été un coup de poignard dans le dos.
Ah bah c'est-à-dire que moi ça m'a pas vraiment donné envie d'aller tout me trouver un MJ et commencer ma première campagne. Et je suppose qu'effectivement c'était un joli coup de poignard parce que le film ne sent absolument pas l'amour pour son matériau de base. Alors je l'ai pris également en plus de cette petite Madeleine de Proust parce que alors il est accessible pour un public novice, surtout parce qu'il n'a aucune excuse. C'est-à-dire que il y a toujours un petit pincement au cœur quand on présente un film turc ou un Pakistan, etc., à dire il y a de la distance culturelle ou il y avait pas trop de budget, c'était pas des acteurs professionnels. Là, vous avez une image impeccable, vous avez du budget, vous avez des acteurs qui ont quand même
Oui, c'est donc des acteurs confirmés.
Mieux, voilà, confirmés.
Ouais.
Qui, pour certaines, je pense à Sora Birch, auront des rôles autrement plus remarquables. Vous avez un lore, j'imagine, de 3000 pages derrière qui donnait beaucoup de matière. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse. Vous pouvez y aller en confiance. Vous pouvez le sabrer de tous les côtés. Il ne se défendra pas. Voilà, c'est...
Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont choisi de raconter dans tout ça, quoi ?
Alors, le scénario, il y a un petit côté quand même quête de mauvais jeu de rôle. Hein. On va chercher les sept pierres de Zatan qui vont ouvrir la porte magique, etc. Donc, nous sommes à Izmir, ou Izmir, selon la version française.
Station balnéaire en Turquie ?
Voilà, tout à fait.
Ah, je vois bien.
C'est un petit peu dur à Izmir quand même, parce que bah, vous avez les mages, qui sont des mages, voilà, et vous avez les normaux, les pélos, les pleupleux, qui sont, on vous dit dans le film, pas beaucoup plus que des esclaves, donc ils sont très oppressés, ces gens-là, et ils sont tous encadrés, vous voyez les ressources humaines encadrées, ils sont tous dirigés par la brave impératrice Savina, qui est jouée par Thora Birch, et on y reviendra. Qui gouverne grâce à un sceptre de contrôle des dragons dorés. Et évidemment, face à elle, les mages ne sont pas très contents parce que Savina, elle a un idéal. Elle est jeune, elle est rebelle, elle écoute de la J-pop et elle se dit qu'il faudrait que les gens soient heureux et que les gens soient plus égaux les uns les autres. Donc face à elle se dresse l'infâme, je suis désolée, l'infâme Profion.
Il
s'appelle comme ça.
Non, mais il y a un fil rouge, il y a un fil rouge qui dessine, je crois.
Qui se dresse contre elle et qui tente lui de contrôler ses propres dragons, qui lui volent le sceptre. Et donc, Savina est là, un petit.
Mais attends, il s'appelle vraiment Profion, pardon.
Il s'appelle vraiment Profion.
Et là, avec un P.
En VF,
En VF, en VO, tout ce que tu veux, il s'appelle Profion.
Putain, mais j'ose à peine imaginer les séances de doublage où les mecs devaient prendre des breaks de un quart d'heure, tu sais, genre après. Profion.
C'est. Alors.
Est-ce qu'il dit je suis Profion ou
Oui, 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 oui.
Ouais, il fait des profions magiques.
Non, no shame face caméra, je m'appelle Profion. Il y a un petit côté médicament pour les troubles digestifs qui est assez. Ou alors un petit côté, vous savez, les générateurs de noms automatiques qu'on trouve sur le web avant de commander la campagne. Il a cliqué nom démon, voilà. Donc, on en était, voilà, sceptre volé. Donc, oui, l'impératrice va missionner une elfe. Alors, une elfe noire, mais. Enfin, là, c'est l'instant Black Panther, une elfe vraiment de couleur noire.
D'accord.
Donc, c'est le petit instant progressiste. Le petit instant progressiste s'arrête, évidemment, lorsque l'elfe noire va aller s'en amourer d'un autre elfe noir. Et que les blancs iront s'en amourer de blancs, parce qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans la mixité raciale et tout, quoi.
Ça a l'air un peu binaire, cette histoire.
Donc, l'impératrice envoie une elfe, Profion envoie, envoie son chef des gardes, Damodar. Lui aussi, on en reparlera. Enfin, on reparlera tout le monde un par un, je pense. Faire la course pour aller chercher une bibliothécaire qui possède une carte qui permet d'aller choper un autre sceptre qui permet de contrôler d'autres dragons. Comme ça, voilà, soit il y en a un qui a deux sceptres et ça va, soit il y en a chacun un sceptre et la guerre peut commencer. Pour revenir un petit peu sur les héros, l'elfe voleur, donc voleur niveau, hein, vous inquiétez pas, qui porte d'ailleurs des mitaines d'oreilles, c'est adorable. Il a un petit cache-oreille en forme de pointe, parce que sans doute ça coûtait beaucoup moins cher qu'un maquillage. Je ne vois que ça. Ou alors la Fashion Police n'existe pas à Izmir. Qui est joué par Marlon Wayans. Alors Marlon Wayans, pour vous décrire, c'est un petit peu le dernier... Dernier acteur auquel il aurait fallu penser pour ce genre de film. Imaginez, je ne sais pas si vous voyez le personnage de Ruby Rhodes dans Le Cinquième Élément. Bah voilà, c'est son inspiration pour le film. Ça donne voilà un sassy black elf. C'est assez irritant. Donc notre elf qui porte une armure ultra moulante avec des tailles physiques. Enfin, c'est assez pornographique.
Rico va enquêter, t'inquiète.
Okay. Voilà, la taille de... Donc le fameux nain qui est... C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux avait fait. Hein. Ils ont casté John Rhys Davies, sauf que le Seigneur des Anneaux avait eu l'intelligence de faire des mouvements de caméra pour ne pas montrer que le nain faisait la taille d'un homme normal. Ça fait un groupe de héros finalement qui est vraiment... qui a très peu de personnalité et qui est très peu suivable face à des méchants qui sont, mais alors... absolument fantastique. Donc, pourquoi ça fait un nanar ? Donc, par ordre d'importance croissante, on va dire. Les costumes, l'esthétique, alors c'est pas Flash Gordon, c'est pas daté années 30, slash... voilà.
C'est moins coloré, non ?
C'est daté années 90.
Ouais.
Alors, il y a quand même un côté carton-pâte qui m'a fait penser à des vieux péplums ou des choses comme ça. Il y a du beau carton, il y a des matte paintings, il y a des effets spéciaux ratés, enfin... il y a quand même une esthétique assez, assez cheap.
Mais tu l'as revu, justement, quand tu l'as revu, t'as redécouvert un peu cet aspect-là, ou c'était déjà à l'époque, ça t'avait fait ça?
Alors, à l'époque, ça m'avait peut-être passé, mais là, j'ai revu certains murs avec des faux joyaux dedans ou des choses comme ça qui sont assez beaux. Ce qui ne m'avait pas échappé à l'époque, c'était les costumes. Ouais. Certains étant... Alors, ça clinque un petit peu. C'est pas tellement dans l'exécution, c'est plus dans le projet. Il y a une robe de l'impératrice qui a l'air de lui vouloir beaucoup de mal. Hein. C'est un espèce de col avec des crocs derrière. Enfin, c'est spécial à porter. Encore une fois, nous ne jugeons pas la mode sur Izmir, mais ça et les mitaines d'oreilles, voilà. Le nain également, il est roux, mais roux carnaval. Enfin, vraiment, on dirait une très très mauvaise teinture. Voilà.
Un petit côté Régine.
disons qu'il est rouge plutôt que roux, voilà. Donc, second point qui peut être intéressant à regarder et qui là aussi saute un petit peu aux yeux, c'est les effets spéciaux. En particulier, les dragons qui sont le gros effet spécial du film, parce qu'il y a une ou deux batailles avec des dragons, plus une scène avec un seul dragon. Alors, il y a un parti pris un petit peu étrange. C'est que les dragons, ils ont une tête entre le bon machin de dessin animé, entre Spyro, et un vrai dragon un peu menaçant, et ça leur donne une tronche un peu... Enfin, résultat, ils sont un peu en poker face pendant tout le film. Hein. Ils n'ont pas trop de tête, pas trop d'expression dans les yeux, et ça, c'est assez raté.
Mais ça, c'est un truc de dragon. Hein.
C'est comme ça qu'ils vont à toutes les fois. On a aussi un très beau squelette en animatronique à un moment. Alors, bon, le scénario également n'a pas tellement grand-chose de remarquable, si ce n'est que le sous-fifre d'Amodar, l'instoppable, j'aime bien l'appeler comme ça. En fait, si vous voulez, donc l'acteur qui est Bruce Payne, on lui a dit un truc, c'est que tu es la statue du commandeur. Voilà, tu es l'inarrêtable guerrier, le gars, mais vraiment avec les épaules d'1m20 de chaque côté. Tu es le boss de fin de niveau, avec une épée à deux mains. Voilà, il a pris le full tir guerrier. Voilà. Sauf que, du coup, pour paraître vraiment menaçant, etc., il fait tout à deux à l'heure. Il parle à deux à l'heure, il marche à deux à l'heure, il combat à deux à l'heure. Vous avez l'envie, mais de lui donner un segway pour faire avancer l'intrigue. C'est un running gag, parce qu'à chaque fois, c'est « Ils sont là ! Attrapez-les ! Mais lentement !» Donc du coup, les héros s'enfuient en courant. Damodar, ensuite, il va en marchant, et évidemment, il ne les rattrape pas. C'est un running gag assez... Enfin, essayer de... Pendant le visionnage, de faire un petit peu gaffe à ça, c'est très réjouissant, en fait.
Et il porte une espèce de petit rouge à lèvres bleu, qui est très saillant.
Tout à fait, il a les lèvres bleues, on ne sait pas pourquoi, c'est encore un parti pris esthétique. Voilà, on n'aura pas de réponse si ce n'est que les lèvres bleues. Et par-dessus tout, le gros, mais gros point fort de ce film, c'est l'acting. On va détailler un petit peu, donc on a parlé un petit peu de Marlon Wayans qui part totalement au Chris Tucker, enfin, c'est voilà, le sassy Black Elf. De Bruce Payne qui part donc en statue du commandeur, mais qui a surtout retenu la statue. Thora Birch qui joue Savina l'impératrice, alors elle, je pense qu'elle a énormément de talent, parce qu'il faut beaucoup de talent pour arriver à jouer autant de rien. En fait, elle est partie, elle n'a aucune expression, elle est d'une mollesse magnifique, ça donne une impératrice qui est très réjouissante de nullité, en fait, puisqu'elle n'a aucune expression sur le visage, elle somnole pendant tout le film, et en face, le feu d'artifice, en face, la bête, le monstre, l'intérêt, le point du film, c'est Jeremy Irons, c'est Profion.
Ça, on le savait depuis le début que c'est Profion.
Je n'ai pas de mots. Alors, je conseille le film vraiment en VO. Voilà, c'est pour ça que le seul extrait que je nous ai gardé est en VF, c'est un morceau de bande-annonce qui vous donne déjà une assez bonne vue du film. Je le conseille vraiment en VO parce que entendre Jeremy Irons jouer est un émerveillement de tous les instants. Il n'est parfois même pas intelligible pour des anglophones natifs, tellement il surjoue, et mais vraiment, il est magnifique. je pourrais me mettre en boucle les scènes de...
C'est du désespoir ou c'est du... Enfin, je veux dire, il est désespéré ou il est à fond, enfin,
il est à fond, mais alors étonnant, peut-être... je pense qu'il a passé totalement le point de non-retour.
Il est tellement désespéré qu'il est à fond, en fait.
Voilà, je pense qu'il s'est dit, celui-là, je le mettrai pas sur mon CV.
C'est un peu comme Max von Sydow dans Flash Gordon, quoi. Il joue le méchant, il en profite.
Il y a quelque chose comme ça, peut-être.
On s'écoute un peu la bande-annonce ?
Dans un monde lointain.
Tous mes sujets doivent être libres et égaux.
Cet enfant n'est pas en mesure de gouverner un empire.
Les forces des ténèbres pouvaient contrôler les dragons. Avec l'armée de dragons à mes ordres, j'écraserai l'impératrice.
Ça doit être une expérience de magie bien glauque et qui a mal tourné.
Menace de s'emparer d'un royaume.
Comment puis-je arrêter Profion ?
Si vous vous procurez le bâton de Sabrine, vous contrôlerez les dragons rouges.
On se fait oublier, le temps que les choses se tassent, on revient et on dévalise tout le monde.
Il y a un petit problème.
Un problème ?
J'ai promis qu'on la trouverait.
Qu'une pluie de sang s'abatte sur tout le royaume !
Même le gouvernement.
Aie confiance.
J'aime pas quand tu dis ça. Oh !
N'y touche pas !
Ah ! Tuez-les lentement.
Sors du labyrinthe et tu as la récompense.
Il va falloir faire mieux que ça.
Il va falloir faire mieux que ça. Ouais. Et je pense que c'est la conclusion.
Le tuer-les lentement également. Puisque évidemment, vous avez reconnu Damodar qui veut qu'on les tue lentement. J'aime bien... le temps de s'échapper, il est très fair-play.
J'aime beaucoup les bandes-annonces qui commencent toujours par « Dans un monde ».
Ouais, mais c'était bien ces bandes-annonces. On avait des voix off qui guidaient le truc.
Elles sont toujours là, hein, je crois. Hein.
Ça se fait encore, ça ?
Ouais, si. Mais alors, non,
ils ont été remplacés
plutôt pour
par
les comédies. Non.
Ouais.
Donc bref, voilà, ça passe tout seul. Ça convient bien pour soit pour la dernière partie de soirée quand vous êtes épuisé, que vous avez fait voilà trois autres nanars, ça coule, que pour des débutants avec une bière, des chips.
Pour se chauffer.
C'est facile à trouver. Alors, en tout cas, en VO, c'est très facile à trouver. En VF, on a un petit peu plus lutté pour trouver des DVD. La Fnac ne les a pas, mais enfin, je suppose que c'est une simple rupture de stock.
Ah, on ne doit pas leur demander tous les jours, c'est vrai.
Ouais, t'es pas arrivé au bon moment. Je pense qu'ils étaient en réassort parce que c'est pas possible. C'est un
incontournable.
Après, voilà, c'est une quête. Vous trouverez ça. Vous trouvez ça. C'est pas un artefact rare, on va dire.
Bon, bah merci Mathilde. Merci beaucoup. Ça donne bien envie. Moi, je l'ai pas vu, mais du coup,
j'avais vu à l'époque, et c'est vrai que je me suis dit, quand t'as dit que c'était ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est typiquement le film.
Ouais.
Qui, quand il est sorti, s'était bien fait bâcher, mais qui se ferait aujourd'hui sans doute exploser parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et que je pense qu'on pouvait passer encore un peu en loose-dé avec une licence comme ça. Et surtout, il s'était quand même fait exploser à l'époque. Et je pense que c'est typiquement le genre de film qui a mal vieilli, très mal vieilli. Enfin, c'est pile la période dont on parlait l'autre fois où qu'on peut commencer à revisiter et qui doit justement receler pas mal de nanars vraiment plaisants, quoi.
Bah merci, je suis vraiment content d'avoir fait la connaissance de Profion.
Ouais, j'attends. Alors j'attends aussi beaucoup de Deragon. Je pense que dans 5-10 ans, on pourra peut-être, peut-être, s'il est pas trop vide.
Putain, mais c'est encore avec Jeremy Irons, je pense. Non,
c'est pas impossible. Il est beau souvent dans les bons.
Il y a John Malkovich, mais il me semble que oui. C'est à revérifier.
Bah, c'est un peu
un
mercenaire du cinéma quand même, Jeremy Irons. Ouais, il a tourné dans beaucoup de choses, un peu en mercenaire.
Ah, heureusement pour lui. Heureusement pour lui, il a été repêché dans Batman vs. Non, rien. enchaînons. Arrête-toi, Régis, dis-moi quel film tu nous as choisi.
Alors, moi, j'ai choisi de parler de Power Rangers, le film. Mais d'accord, c'est Power Rangers, le film, pas le film qui vient de sortir. C'est Power Rangers, le film de 1995, qui est un des nanars avec lequel j'ai early beginné, quoi. Qu'on avait loué avec une bande de potes, et en fait on avait passé une super soirée. On avait découvert en fait pas le nanar, parce que finalement on savait un peu ce que c'était, mais on avait découvert justement cette sensation de regarder à plusieurs un film qui nous fait tous rire au même moment, dans lequel on s'amuse à repérer des trucs, enfin voilà, des fils rouges, et on avait passé une super soirée. Et donc voilà, donc c'est l'adaptation évidemment de Power Rangers, la série. Je connais rien à la série parce que j'étais un peu trop âgé pour regarder à l'époque. Donc je pense que je l'ai pris aussi comme un gros nanar de beginner parce que on s'est pris comme ça dans la face ce film de Sentai américanisé complètement foiré quand même quoi. En tout cas, enfin très très niais. Parce qu'en fait, c'est quand même le truc qui accroche tout de suite dans le film, c'est que ça commence tout de suite avec les cinq ou six héros. Et là, tout de suite, on se dit, bon, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont coolos, quoi. Ils font du roller, ils font des sopers, ils sourient tout le temps, ils font de la chute libre. Enfin, c'est un peu une espèce de vision comme ça de la réussite. Ils nous épargnent strictement rien.
Ils sont centristes aussi ou...
Ouais, ça fait...
Eh ben, c'est la jeunesse, si vous sortez les doigts, je suis désolé.
Jusqu'à la barre.
Ça fait un peu peur au début parce qu'en fait, ils ont des sidekicks qui sont dans la série, en fait, qui sont insupportables. Un espèce de... En plus, avec... Alors maintenant, je pense que ça passerait plus, un espèce de truc très grossophobe, en fait, parce qu'il y a deux sidekicks qui est plutôt obèse, qui est juste horrible. Pas parce qu'il est obèse, mais parce qu'il est pas drôle et qu'il essaye de faire rire tout le temps. Et ça, heureusement, ils l'ont viré, en fait, dans le film. Je pense que c'était un peu de fanservice au début du film pour dire voilà un peu comme Jar Jar Binks dans la suite du premier Star Wars. Du coup, en fait, au bout de 6 minutes 20, j'ai regardé le time code, on a envie de tarter tout le monde, mais de tarter tout le monde dans un esprit nanar. C'est-à-dire qu'en fait ils sont horripilants, mais du coup ça commence à être un peu rigolo quoi. Et puis du coup, bah vu qu'on est dans l'adaptation d'un Sentai qui vise quand même les très jeunes. Du coup c'est très manichéen quoi. Les gentils sont super gentils et les méchants sont hyper méchants, et c'est aussi ça qui fait l'attrait du truc quoi. Et donc en fait quand au bout de là j'ai regardé, c'était 10 minutes, on découvre Alpha, le petit robot sidekick des Power Rangers, et qui lui fait passer l'insupportable en fait dans une autre dimension parce qu'il a une voix donc j'ai regardé la VF hein. Il a une voix mais horrible quoi. Et donc au bout de 10 minutes là on a carrément envie de buter tout le monde.
Alpha, qu'est-ce qui t'arrive?
Les ondes maléfiques sont tellement puissantes que les détecteurs ont
explosé. Ranger, vous devez agir très vite, la planète court un grave danger.
Et quel type de danger?
Il y a 6000 ans, une entité morphologique maléfique du monde, Ivan Rouse, faisait peser sur le monde un règne d'une incomparable terreur. Il était sur le point d'achever la construction de deux armes absolues. Les titans Ectomorphicus, des robots jumeaux, capables d'asservir l'univers tout entier.
Qu'est-il devenu, Zordon?
Un groupe de jeunes guerriers s'est dressé contre lui. Ils ont pu l'enfermer dans une chambre forte qu'ils ont ensuite enterrée. Mais aujourd'hui, la chambre a été mise au jour accidentellement. Vous devez l'enfouir au plus profond de la Terre avant qu'elle soit ouverte, et qu'Ivan soit libéré.
Ces machines Ectomorphicus sont enterrées près de la chambre forte. Il les trouvera très facilement.
Soyez extrêmement prudent, Ranger. Il s'agit d'une force maléfique dépassant votre imagination.
Voilà, donc...
Ectomorphicus.
Ouais. Alors, vous avez sans doute rien compris, parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai rien compris non plus. Mais en fait, grosso modo, il vient de pitcher le film en 40 secondes. C'est-à-dire, il y a deux gros monstres qui sont enfouis sous terre. Il y a un gros méchant qui va arriver pour les sortir. Et ils vont se bastonner. Sauf que ça, en fait, ça se passe à une heure du film. Donc, en gros, entre les 10 minutes au bout desquelles on entend ce dialogue et l'heure de film au bout de laquelle les deux gros machins vont sortir de terre, il y a 50 minutes de remplissage extrême.
Ah putain.
Ouais, mais extrême. Mais en fait, dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, scénaristiquement, en gros, il se passe rien. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont prendre la grosse ficelle de tous les films... où les gens ont des pouvoirs, c'est-à-dire que les mecs qui ont des pouvoirs vont perdre leurs pouvoirs et vont devoir se lancer dans une quête pour récupérer leurs pouvoirs. Voilà, ça c'est le scénar de tout ce qui se passe entre la minute 10 et la première heure de la première heure.
Parce que c'est une origin story ou pas du coup le film où ça démarre, ils sont déjà Power Rangers?
Ouais, non, justement ils sont déjà Power Rangers, ce qui est un peu niais parce que finalement ils se retrouvent à faire une quête pour retrouver les pouvoirs, donc ça aurait été même plus intéressant justement de comprendre comment tout ça avait commencé quoi. Mais non, ils sont pas du tout là-dessus. Justement, t'as tout, je pense que c'est vraiment le film qui est fait pour les gamins qui suivaient la série à l'époque quoi.
Ouais.
Ce qui est bien, c'est que par contre ils remplissent que avec des scènes d'action quasiment, il y a très peu de dialogue, j'y reviendrai. Et justement, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui m'a fait penser tout de suite quand je l'ai vu à Flash Gordon, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des hommes-oiseaux, et je me suis dit, putain, mais...
On dirait... Encore ?
Encore ! Sauf qu'en fait, tu te dis, bah, le film a été fait finalement 15 ans après, ça n'a pas évolué, donc c'est les mêmes hommes-oiseaux tout foireux que dans Flash Gordon, sauf que le film a 15 ans de moins, donc c'est encore potentiellement, enfin, c'est finalement encore plus pourri, quoi. Il y a un petit côté un peu malaisant avec ces oiseaux qui est assez bizarre. Parce que voilà, c'est ce côté un peu effet spéciaux où on n'était pas encore au CGI, on était encore avec des en fait c'est des bonhommes dans des costumes Jiffy, quoi, déguisés en oiseaux, avec un petit côté cool quand même, c'est qu'ils étaient encore aux cascades faites avec les câbles, donc on les voit se poser, on les voit décoller, il y avait un petit côté finalement d'effets spéciaux de l'époque qui était plutôt sympa, quoi. Après, le gros truc sympa aussi, c'est, et justement là on est dans le côté très accessible de ces nanars là, c'est les méchants. Bah, c'est un truc qui revient un petit peu finalement dans les trois films dont on parle ce soir, c'est assez marrant parce qu'on ne s'est pas concerté. Et là, les méchants, en fait, bah, du coup, c'est la caricature de Sentai, forcément. Donc, c'est le gros méchant, super méchant, avec son petit sidekick Susbull qui passe son temps à souligner le fait qu'il est perfide. Et ça, c'est assez drôle.
Émerveillez-vous devant l'escosquelette du fabuleux Arnitor. Mon cher Scorpitron devrait être tout prêt. Une fois que mes adorables titans ectomorphicus seront enfin prêts à l'action et des nations de la Ouse sur la Terre entière, je raillerai Angel Grove de la carte et ensuite tout l'univers. Continuez à crever.
On va conquérir la Terre. On va conquérir.
C'est Gros Miller, en fait.
Oh, c'est Doc Brown.
Donc voilà, donc en fait, pourquoi c'est un nanar débutant pour moi, bah, c'est parce que du coup, d'abord, je l'ai vécu en me marrant bien et que vraiment, c'est un truc que j'avais passé une super soirée. C'est aussi parce que c'est l'univers des Power Rangers. Alors là, du coup, je pense que ça peut être un peu clivant parce que je me suis rendu compte sur Internet qu'il y avait, en regardant un petit peu les commentaires, il y a plein de gens en fait qui devaient être très jeunes à l'époque, qui devaient être fans de la série, qui ont dû voir le film en étant tout gamin et qui ont une vraie affection en fait pour ce film, qui arrivent sans doute pas à le voir pour comme un nanar, j'allais dire pour ce qu'il est, mais ça serait un peu prétentieux, et du coup qui ont une vraie nostalgie en fait pour ce film-là, ce que je peux comprendre quelque part, mais c'est vrai que quand on le regarde avec un peu de recul, en n'étant pas baigné dans cet univers, en n'ayant pas de rapport affectif avec cet univers, c'est juste super drôle, quoi. Enfin, il y a rien qui fonctionne.
Ouais.
Le côté vraiment le plus justement le plus drôle pour moi, ça a été les Power Rangers eux-mêmes en fait. Parce que du coup, ils sont quand même, super quiche. En fait, ce qui est insupportable et en même temps super drôle, c'est que vu qu'ils sont 5 ou 6, ils sont 6, le film est découpé pour qu'ils aient chacun un temps de parole à peu près équivalent. Donc en fait, il y a une espèce de redistribution de la punchline où chacun doit mettre son petit grain de sel en fait quand il se bastonne. Et en fait, ça devient horripilant. Enfin, quand on bloque dessus, c'est juste horrible, quoi.
C'est un peu comme le débat des primaires où on disait non, attendez, Nathalie Kosciusko-Morizet est en retard dans le temps de parole.
Ouais, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, vu qu'ils sont 6 et qu'ils placent une réplique chacun, il y a un truc qui devrait prendre 10 secondes, prend une minute. Donc les rollers ils passent tous devant la caméra 6 fois, la chute libre on les voit tous, et en fait dès qu'ils se cartonnent avec les méchants, bah voilà, faut que chacun fasse son coup, chacun soit mis en difficulté, chacun revienne, et du coup ça fait des passages comme celui qu'on va écouter.
Il faut arrêter ce monstre, utilisons nos nouveaux sorts.
D'accord.
Gru ninja sort,
loup ninja sort,
grenouille ninja sort,
singe ninja sort,
ours ninja sort,
Faucon ninja sort.
Les voilà.
Les ninja sort.
Super.
Ouais. Méga génial.
Méga génial.
Ils ont appelé les renforts.
Sort ou pas sort, je les écraserai comme des cafards.
En avant.
Power Ranger.
Paré à l'action.
Tous les systèmes sont opérationnels.
Système d'armement hors plancher.
Pas mal la décoration.
Faites chauffer la colle.
Faites chauffer la colle. Voilà, je me suis vachement interrogé sur ce...
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et voilà, et en fait, je pense que les dialoguistes, ils étaient en bout de course, d'inspiration.
Il avait sniffé la colle, en fait.
Alors, faire chauffer la colle est une expression legit pour dire c'est une vraie expression d'argot sur faire démarrer le machin, mais effectivement qui n'a pas très...
C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, vu que c'est un film pour enfants, en fait, ils sont dans un registre de langage qui est finalement très, très désuet, très très gentillé, et en fait je me suis amusé à en noter quelques-unes, mais c'est parce que en fait j'ai un peu bloqué là-dessus quoi, donc c'est faut les imaginer en train de se battre et puis en train de d'adonner comme ça leur petite réplique hyper fière d'eux. Allez, embrassez-vous, je vous ouvre la porte, t'es du genre gluant, on se les fait à saut de mouton, c'est pas vrai, ils en redemandent deux pour le prix d'un, bon voyage et bonne chute, fiche-moi la paix, cauchemar ambulant. C'est l'heure de ton cours de danse. Et enfin voilà, donc il y en a, je sais pas, il y en a au moins 50 comme ça.
J'ai des flashbacks des films des Tortues Ninja là.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Sauf que justement, les Tortues Ninja, c'était plus tôt, les VF étaient carrément ordurières quoi.
Ouais.
Là, ça a l'air très très gentil. Bah, quand
ouais,
même.
La plus absurde que j'ai noté, c'est bonjour, vous avez des envies de cuisses de grenouille ou quoi?
Ah oui.
Voilà, je m'interroge encore sur le pourquoi du comment quoi, de ce truc. Voilà, je pense que les acteurs, en gros, ils doivent jouer un quart d'heure en fait dans le film parce qu'ils passent leur temps masqués avec des cagoules de ninja ou leur masque de Power Rangers.
On y revient toujours au ninja. Hein.
Ouais, bah oui, forcément. Il y a un moment, il y a une séquence toupie, on aurait dit un Godfrey, quoi. Enfin, un moment, il attaque en... on y vient, quoi. Et après, bon, bah, l'autre gros morceau qui fera que le film est accessible, je pense, vraiment à tout le monde, c'est les effets spéciaux, quoi. Parce que du coup, ça a super, super mal vieilli. On est en 95, pile au moment où les prods assez friqués se disent faut mettre tout ce qu'on peut sur les images de synthèse. Donc les robots sont pas des robots type Sentai, tu sais, dans des champs de maquettes, enfin les trucs justement qui ont une belle patine, qui ont vachement de charme. Là, c'est vraiment de l'image de synthèse brillante, mal incrustée, enfin il y a rien qui marche quoi. Et du coup, on dirait presque du Bulk en fait maintenant, enfin l'incroyable Bulk, le remake low cost de Hulk quoi. Enfin bon, tout ça pour dire qu'ils finissent par déterrer les titans ectomorphiques et qu'ils vont se mettre sur la gueule dans l'espace. Et là, en fait, on découvre que les Power Rangers sont quand même capables de coups, un peu de coups bas, quoi.
La micropression est en zone rouge. On va imploser. Position 009883, on est en plein dans la trajectoire de la comète.
Un petit câlin, mutin, mes lapins.
Devons-nous libérer immédiatement?
D'accord! Au grand mot, les grands remèdes!
Qu'est-ce que tu fais?
Contre certaines personnes, tous les coups sont permis!
Oh. Aïe! Aïe! Oh. Retournons à la base!
Oui!
Voilà, et en fait, tous les coups sont permis. Ce qu'on ne peut pas voir à l'image, c'est qu'en fait, elle casse une vitre derrière laquelle il y a un gros bouton rouge. Elle appuie sur le bouton rouge. Et là, en fait, le robot met un énorme coup de genou dans les couilles du méchant. Donc en fait
tu veux dire qu'il y a un bouton,
il y a un bouton,
il y a
dans
un
les
bouton
roustons,
d'alarme coup de genou dans les couilles en fait.
Ouais, c'est ça.
Putain,
on se sent protégé.
Hashtag harcèlement de robot.
Voilà. Et donc bon bah pour la petite histoire, ce film là qui nous a donné envie de au tout début quand le site n'existait pas de lancer le site en fait parce qu'on s'était tellement marré en faisant cette séance qu'on s'était dit mais voilà faudrait témoigner de nos visionnages en fait de Nanar et on s'était dit bah pourquoi on ferait pas un site qui parlerait de ce qu'on regarde entre potes pour se marrer et on a appelé ça Nanarland et en fait ça a été un peu le Nanar par lequel on a commencé et via lequel on a eu envie de lancer le site. Donc bon, moi j'ai une grosse tendresse perso pour ce film, mais c'est aussi vraiment un truc que je pourrais conseiller à tout le monde pour commencer quoi. Non mais je me disais en fait, enfin je sais pas vous ce que vous en pensez, mais la première expérience de Nana avec des potes, c'est un truc, ça, il y a vraiment un truc, c'est un peu comme un crush quoi. Enfin, je veux dire, tu parlais Martin tout à l'heure sans le nommer de Devil Story. Rico, je sais que c'est un.
Ouais, c'est le premier réellement que j'ai vu avec des potes, que j'ai ramené la cassette du vidéo club plusieurs fois pour le montrer à des amis tellement j'avais vu une première fois tout seul, j'avais déjà été tellement halluciné, j'avais été le rechercher dans le vidéo club et j'avais organisé une soirée avec tous mes amis pour pouvoir le voir. Et
j'avais dû trouver de nouveaux amis.
Et ceux qui sont restés sont encore mes amis, mais
ouais, c'est un super révélateur quoi. Ouais. Ceux qui restent sont vraiment vos amis, quoi. Ouais.
Non, mais du coup, je trouve que les premiers... Parce qu'en fait, le nanar, c'est des trucs, je trouve, ça... Tout le monde, en fait, fait sa première expérience nanar sans vraiment le savoir. C'est, je veux dire, on regarde... Enfin, en tout cas, nous, à l'époque, c'est vrai qu'avant qu'il y ait Internet, maintenant, c'est peut-être plus des choses avec les réseaux sociaux, les extraits, les trucs, les worst scene ever, les trucs comme ça. On est plus exposés à cette... Nous, en fait, ça te prenait un peu par accident, quand même, de tomber sur un vrai gros film qui te fait mourir de rire sans que tu t'y attendes, quoi.
Bon, bah merci beaucoup, Régis. Putain, ça me donne bien envie de le revoir, du coup, surtout avec le temps qui est passé, là.
Après, alors je m'excuse, c'est vrai que, bon, par rapport à toi, Martin, tu te seras peut-être dit des trucs, mais j'y connais strictement rien au Sentai. Donc je l'ai vu non seulement comme quelqu'un qui connaît rien à Power Rangers, mais aussi comme quelqu'un qui connaît rien à cette culture. Donc j'imagine qu'il y a plein de codes aussi, plein d'éléments qui sont là, pas par hasard. Moi, je l'ai regardé avec la vision du débutant, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que, comment dire, le Sentai déjà en soi, c'est un sujet compliqué, parce que même les Sentai actuels que tu peux voir qui sortent encore du Japon, parce que c'est encore, en France, on n'en voit plus trop maintenant, mais au Japon, ça continue d'arriver tout le temps, quoi, et c'est quand même, malgré tout, même maintenant, toujours assez kitsch, et je crois que ça fait un peu partie du jeu aussi, enfin ça fait partie du produit, c'est tellement le Japon, quoi, un truc tellement qui vient d'ailleurs que, bon voilà, c'est toujours un peu kitsch. Et après, j'aurai une reco par rapport à ça, justement. Pour mieux comprendre cet univers en une heure, j'ai une très bonne reco, pour ça. Bah, avant que je balance ma reco Sentai, qu'est-ce que vous avez, vous, à recommander?
Moi, en fait, je vais recommander des soirées, parce que sur Nanarland, on tient un agenda. Enfin, c'est moi qui tiens l'agenda. Donc, je vais faire mon auto-promo. Non, mais je vais citer plein de gens, donc c'est pour ça. Alors, on s'est dit un peu comment bien débuter dans le nanar, et c'est quand même mieux dans le festif et quand on le voit en salle. Et un peu partout en France, il existe des soirées régulières. Donc si vous voulez un petit peu découvrir du nanar dans une bonne ambiance, vous avez donc l'agenda Nanarland qui vous en présente quelques-unes. Alors, parmi les grands classiques qu'on va retrouver en France, sur Paris, il y a évidemment les soirées de la Cantada dans le 11e arrondissement, les rendez-vous de la Grotte Chaude, Pas de pitié pour les navets, Glory LOL aussi maintenant qui vient de reprendre sur les films comiques. Dans les incontournables dans le Grand Est, il y a la Scala de Thionville qui fait sa soirée bis tous les mois, et c'est vraiment la... un travail vraiment, vraiment très très bien. Sur Lille, il y a par exemple Bon Chic Mauvais Genre, Matière Focale, signé au Ciné Le Majestic. À Dijon, la Cinémathèque de Monsieur Duterche à la Vapeur qui reprend. Un petit peu partout en France, vous avez des soirées qui se mettent en place, qui sont certaines une ou deux fois dans l'année, certaines sont des rendez-vous réguliers tous les mois. Et si vous voulez vraiment une porte d'entrée, je vous conseille l'agenda de Nanarland qui est en liste, celle sur lesquelles on est au courant.
Ouais, super façon d'aller voir des films comme ça un peu en salle, c'est génial, quoi. C'est encore le step suivant à plusieurs dans le salon, quoi.
C'est vrai qu'il y a l'ambiance tout seul, il y a l'ambiance en groupe et il y a l'ambiance en salle. Ouais. Et d'être dans une bonne salle qui a le bon esprit, c'est incomparable.
Et évidemment, on vous invite à venir au Grand Rex ce mois de septembre pour la nuit Nanarland.
J'en profite d'ailleurs pour... je rebondis sur ce que tu dis, Rico. Effectivement, parce qu'en fait, c'est vrai que le nanar, en fait, maintenant... Il y a plein, comme je disais tout à l'heure, il y a plein d'extraits sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, etc. Ce qui est bien, enfin c'est marrant, ça fait des portes d'entrée justement vachement intéressantes. Mais c'est vrai que là, on vient de parler de films, parce que ça se consomme quand même en rentrant un peu dans le... Moi, c'est un des trucs maintenant que je me dis qu'il est important aussi de faire passer comme message. C'est pas que des zappings de courts extraits, de scènes rigolotes. À Nanar, tel qu'on vient d'en parler, ça se consomme en regardant le film du début à la fin et en rentrant un peu dans la folie douce du film. Alors là, on n'a pas forcément parlé de film hyper fou, encore que Flash Gordon un peu, mais je veux dire, il y a quelque chose qui naît du fait de le regarder en entier comme un film, quoi. Faut pas se dire que le nanar, c'est que des petits bouts de scènes rigolotes pris de ci, de là, je trouve.
Ah, complètement, complètement.
Puis parce qu'à ce rythme-là, vous pouvez prendre même des films qui sont objectivement très très bons, prendre l'extrait qui veut rien dire hors contexte et puis rire. Enfin, il y a pas.
Il y a plein d'extraits forcément hilarants. Enfin, c'est. Mais voilà, il y a une dimension supplémentaire en fait, je trouve, à rentrer dans un film et d'autant plus avec une bande de potes ou avec un public effectivement. Quoi.
Complètement. Ouais. Ouais, complètement.
Une fois que vous pourrez dire, voilà, je me suis fait nuit sadique, minute zéro jusqu'à la fin, c'est incomparable.
Bon, et toi, Régis, alors, est-ce que tu aurais une reco à faire, du coup ?
Ouais, moi, c'est une, alors, c'est une reco un peu décalée, parce qu'on est dans un... Justement, le nanar pour les gens qui voudraient commencer le nanar. C'est un livre, en fait, qui s'appelle « Éloge de la nanarophilie » de Antonio Dominguez Leva et de Simon Laperrière, qui est, en fait, un livre qui se pose la question de... Qu'est-ce qu'un nanar et pourquoi on rit et comment ça se consomme et qui est hyper intéressant. Ils ont une approche un peu universitaire, donc ça peut paraître peut-être bizarre pour des gens justement qui ont écouté le podcast en se disant « Tiens, un nanar grand débutant ». En fait, ce qui est marrant, c'est que justement, il y a des gens qui théorisent, qui s'interrogent, qui ont une approche un peu sociologique, culturelle, cinéphilique, universitaire. Et là c'est un livre qui est pas très long, qui fait une, je sais pas, il fait, je l'ai dans les mains là, il fait ouais, une soixantaine de pages, mais c'est hyper intéressant. Et la problématique, c'est un peu ce qu'on vient de traiter là, c'est qu'est-ce qui fait rire dans un film, comment on se retrouve à rire d'un film, pourquoi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et c'est hyper intéressant.
Ah cool, ouais, c'est une belle reco. Bah du coup ouais, moi j'avais une petite reco Sentai parce que on a parlé de Power Rangers, on n'est pas rentré dans le détail de qu'est-ce que c'est Power Rangers, qu'est-ce que c'est que le Sentai, et c'est en soi un sujet assez passionnant. Alors d'une part le Sentai parce que c'est tellement un truc culturellement autre. Alors nous on connaît Power Rangers avec des Américains à la mâchoire carrée et aux dents blanches qui se transmutent en ninja bionique, etc. Ça, c'est la version occidentalisée. C'est celle qui a été importée en Occident dans les années 90 par... comment il s'appelait déjà ?
Haïm Saban. Haïm
Saban, voilà. Ouais. Et rien que cette histoire-là est assez passionnante de comment Haïm Saban a ramené ça et l'a revendu à Disney, l'a racheté. Enfin, c'est vraiment une histoire de dingue. Et même le Sentai en soi, c'est vraiment... ça représente tellement les obsessions culturelles des Japonais que quand tu commences un peu à découvrir ce qui existe en Sentai au Japon, qui passe sous le radar ici, tu vois des trucs vraiment fous, quoi. Et par exemple, les Japonais étant vraiment fans de leur système ferroviaire, dans les dernières saisons des Power Rangers, ils activent leur super arme en passant leur passe Navigo, en gros, quoi. Donc c'est assez fou.
La réforme du statut des cheminots, voilà la lutte ultime des
Voilà ce
Sentai.
Que vous allez vous prendre. Et donc, nos amis de After Eight, donc Daniel, Andriev et Benjamin François, avaient fait un épisode dédié au Sentai passionnant avec Golden Greg sur Twitter, j'ai oublié son nom de famille, je m'excuse auprès de lui, où ils avaient vraiment parlé à fond, en long, en large et en travers, de l'histoire des Power Rangers, de comment Haïm Saban avait récupéré les licences et amené ça. Et donc voilà, c'est vraiment passionnant, je vous mettrai le lien en reco.
J'avais eu la chance d'en parler avec Daniel, de l'écouter parler ouais. de Power Rangers parce que j'y connais rien. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte qu'en plus, rien qu'au sein de Power Rangers, visiblement, il y a une espèce de mythologie, il y a des saisons où il se passe des choses, il y a des... Et moi qui voyais ça comme un espèce de grand tout un peu risible, je me suis rendu compte, évidemment, comme souvent, c'est pas si simple que ça. Comme.
Ouais, et puis c'est... bizarrement, c'est assez culte aux US, Power ouais. Rangers, on s'en rend pas compte d'ici. Même si j'étais étonné quand tu disais que tu avais vu sur les forums qu'il y avait quand même des gens ici qui aimaient ça vraiment comme une madeleine de Proust.
Par nostalgie, c'est le ouais. côté doudou quoi. Enfin, ouais. C'est le côté voilà, j'avais 5 ans, je regardais ça, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça génial. Ce film était. Et c'est vrai, après, il y a une question qui se pose sur peut-on se moquer, enfin tirer au bazooka sur un film qui cible les 8. 9 ans.
Ouais, ouais, ouais.
Bon, pour avoir parlé des Chaventuriers de Noël dans l'émission de Noël, j'ai envie de dire que voilà, que oui. Mais je comprends aussi qu'on ait un attachement ouais, à ces ouais. films, quoi.
Enfin bon, ouais. Je mettrai le lien de l'épisode en particulier. De toute façon, After Eight est un podcast hautement recommandable. Et là, c'est par rapport au sujet, c'était vraiment, vraiment passionnant. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à toi.
C'est nous qui te remercions.
On remercie aussi Henri Michel, puisque Nanarland, le podcast, est un podcast Riviera Ferraille. Donc, on vous invite à faire un tour sur rivieraferraille.com et à regarder tous les podcasts proposés par Riviera Ferraille, Riviera Détente, le Bureau des Mystères, l'Agenda du Loisir Français, qui du coup, il y a une filiation avec l'Agenda de Rico, quoi. J'y pense, ça, d'un coup. Il y a une vraie continuité. Et puis, on vous donne rendez-vous dans environ 2 semaines avec un nouveau sujet pas encore déterminé, mais à mon avis, ça parlera de nanar.
Ah, bonne idée, tiens.
Allez.
Ouais, ça marchera jamais.
À bientôt, portez-vous bien.
À bientôt.
À bientôt. King of the Impossible.